Ce soir, on va encore presque finaliser l'étude sur le Saint-Esprit. Presque, parce que, en réalité, comme je l'ai dit l'autre fois, on ne peut pas arrêter d'en parler. Ça va revenir régulièrement quand on va parler du Saint-Esprit et de tout ce qu'il peut faire dans nos vies. Parce que toute notre vie, elle dépend de lui et de son action. Ce soir, on va méditer quelques versets qui nous parlent de promesses que le Saint-Esprit nous a faites, des promesses que le Saint-Esprit a faites à ceux qui vont être attentifs à sa voix. Le Saint-Esprit parle, puis il a fait quelques promesses dans l'Apocalypse, puis ça nous dit expressivement dans ce verset-là, dans chacun de ces versets-là, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit parle aux églises. Le Saint-Esprit, Jésus l'a présenté comme étant le consolateur, il veut nous consoler, mais il veut aussi nous enseigner, il veut nous diriger, il veut nous délivrer, nous transformer, nous rendre plein de porteurs, plein de fruits. Mais il a fait aussi des promesses. Le Saint-Esprit parle, puis il a promis des choses, puis il dit « Heureux celui qui a des oreilles pour entendre. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'il y a des promesses extraordinaires que tu retrouves nulle part dans aucun autre Dieu ou aucune autre religion ou aucun autre groupement social, peu importe, nomme-les, là, toutes les sectes puis les insectes. Il y a rien qui peut promettre, personne d'autre ne peut promettre et garantir ces promesses-là. Il y a juste Dieu seul, puis Dieu seul nous dit à celui qui vaincra, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle, à celui qui vaincra. Là, il y a plusieurs choses qu'on va voir ce soir en promesse à celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est la première promesse. Est-ce quelqu'un qui peut me dire de quoi est-ce que ça parle?
L'arbre de vie dans quoi?
Dans le jardin de Dieu. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Là, on parle d'une promesse à venir. Dans la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez, sûrement vous avez déjà lu dans l'Apocalypse, qui nous parle de la ville sainte. L'Apocalypse, ça nous parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre, parce que le premier ciel et la première terre qu'on a présentement va disparaître. Ça va être roulé comme un livre. Ça, on parle à la fin de l'histoire de cette vie. Mais Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre qui vont vivre éternellement. Puis ça, sur ce nouveau ciel-là, il va être différent d'avec le ciel et la terre qu'on vit présentement. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de mer. Puis de ce ciel-là, et du ciel, il va sortir la ville sainte, Jérusalem céleste. Puis j'en parle dans mon émission de radio, justement, de cette semaine, de cette promesse incroyable d'une ville que 1200 kilomètres de long, 1200 kilomètres de large, 1200 kilomètres de haut, une muraille de 200 pieds. Ça nous dit que les fondements de la muraille sont en jaspe transparent, les murs sont comme du cristal, les rues là-dedans dans la ville sainte sont toutes pavées d'or. Puis les portes, il y a 12 portes pour entrer et accéder dans cette ville-là, 3 portes à l'Orient, 3 portes à l'Occident, 3 portes au Nord, 3 portes au Maudit. C'est comme des immenses perles. Ça va être extraordinaire de voir ça. La place de la ville est en or pur. Puis la ville n'a pas besoin du soleil pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'éclaire. Puis l'agneau est son flambeau. C'est Dieu qui illumine cette ville sainte, pure comme du cristal. Puis la lumière de Dieu qui émane de la ville comme une ville. Il n'y a pas rien qui peut représenter cette ville-là. À l'intérieur de cette ville-là, dans le jardin, il y a comme au centre l'arbre de vie. L'arbre de vie qui va produire des fruits chaque mois dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Ça dit qu'il ne rentre rien d'anathème, ni personne qui se livre à l'abomination au mensonge. Il va rentrer que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a juste ceux qui vont pouvoir rentrer et aller manger, eux, à l'arbre de la vie, puis de nous garantir par cet arbre-là, d'avoir la vie éternelle, une santé éternelle. Puis c'est un peu une image de le jardin. Oui, il y a un fleuve de feu, un fleuve de feu qui coule du trône. Oui, qui sort du trône. Ça, là, à relisez l'Apocalypse, là, dans les derniers chapitres, là, dans les deux derniers chapitres, ça nous parle de la finition de ce système ici qu'on vit, puis ça nous parle un peu du règne de 1000 ans. Après ça, ça nous parle que le ciel et la terre vont disparaître, puis ils vont être roulés comme un vêtement, comme un vieux vêtement que tu roules, puis tu jettes dans les poubelles, puis il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre où ce que la justice va habiter.
Fait que la nouvelle terre va être comme un cube.
Non, la terre va être terre, mais il y a une ville sainte qui s'appelle la Jérusalem céleste, qui va descendre du ciel, qui est une ville sainte qui s'est préparée.
Et ça va tomber sur la terre?
Ça va descendre sur cette nouvelle terre-là, puis ça va avoir une histoire qui va commencer, une histoire sans fin.
Un nouvel début de la terre.
D'une nouvelle terre qui va être différente. Ça ne sera plus un système de reproduction comme qu'on a aujourd'hui.
Okay. Ben,
on n'aura même plus besoin de ça. Il n'y aura même plus de temple dans cette ville. Le Seigneur Dieu est son temple. Nous allons être en Dieu, puis Dieu va être en nous. Ça va être la connexion comme il s'est jamais fait.
Puis ça va durer combien de temps, ça?
L'éternité.
L'éternité.
Ça n'aura plus jamais de fin de temps. Ah, ouais. Everlasting life.
Ah,
oui. Ils rentrent que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Là, je répète la promesse que le Saint-Esprit a faite, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, il parle aux églises, à celui qui vaincra dans les églises.
On va-tu là être encore en esprit?
On va avoir un corps parce qu'on va être ressuscité, puis on va avoir un corps qui est éternel. Mais écoutez bien là, l'Esprit parle aux églises, puis l'Esprit dit aux églises, c'est à celui qui vaincra. C'est pas tout le monde qui sont assis dans les églises qui vont rentrer. C'est ceux-là qui vont vaincre. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette ville sainte-là, c'est le paradis. C'est ce que le monde, les catholiques, appelaient on s'en va au ciel ou on s'en va au paradis. Mais la Bible, c'est ça, le vrai paradis. C'est où ce qui est la présence de Dieu dans l'histoire éternelle. C'est pas tout de suite, c'est juste à la fin.
Ça va être ça, notre ciel.
Oui. Mais on va se promener sur la terre, puis ça dit que les rois de la terre vont emmener leur gloire dans la ville sainte.
Fait qu'on va être sur la terre, mais ça serait comme notre ciel en même temps.
C'est sur une terre, mais ce qu'on appelle le ciel, c'est pas qu'on va être dans le vide. On appelle au ciel, c'est dans les cieux, c'est dans les lieux célestes, c'est le royaume des cieux. Fait que dans les lieux célestes, ce qui est ciel pour nous, même qu'on soit rendu là, on va avoir deux pieds sur une nouvelle terre.
Ben là, Daniel, on va-tu manger pareil comme ça à terre, ça?
Oui, mais on va manger pour le plaisir de manger. Écoutez bien l'autre verset. Apocalypse 2:11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que c'est que la seconde mort?
La
géhenne, le feu éternel. C'est pas l'enfer. Parce que le mot enfer, traduit dans le Nouveau Testament, c'est l'Hadès. Dans l'Hadès, c'est le trou ce que t'enterrent les morts au sens physique. C'est le trou. Mais en même temps, c'est l'endroit où s'en vont les morts. C'est ça l'enfer. Le lieu d'attente de la résurrection. Tandis que les catholiques ont mêlé ça un peu avec c'est l'enfer, puis ça, en parlant du mot enfer, que ça sera les temps de feu éternel, ça n'a pas rapport. Hell, l'enfer, c'est le séjour des morts, c'est le lieu d'attente des morts en attendant la résurrection. Il y a déjà du feu en enfer. Ils souffrent déjà dans une proie au tourment. Ils sont tourmentés, sont en proie au tourment dans ce lieu d'attente-là quand tu es mort dans tes péchés. Mais celui qui est mort pardonné, il est déjà dans un lieu de repos, il est consolé en attendant la résurrection de son corps. Puis là, après ça, ça nous parle de la résurrection. Il y a la première résurrection et la deuxième résurrection dans l'Apocalypse. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. puis ils vont être des sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Ça veut dire que la première résurrection, elle se produit lorsque Jésus-Christ va paraître sur un nuage. Tous les saints, les morts en Christ, vont ressusciter avec le Christ, et nous, les vivants qui serons restés, on va être ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Fait que l'enlèvement, ça vient de s'éteindre, la porte de la grâce est fermée, puis ceux qui étaient morts ressuscitent, puis ceux qui étaient vivants retrouvent le Seigneur sur une nuée. C'est la première résurrection. Ceux qui ont part la première résurrection, il y aura pas, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est l'étang de feu, le lac de feu, le feu éternel, la Géhenne, la vallée de Guillemont, le lieu ce que les gens vont acheter dans les ténèbres du dehors, où ce qu'ils ne verront plus la vie, ça va être les ténèbres pour l'éternité. Tandis que dans le hell, les gens voient. Dans l'enfer, les gens voient. Ils voient Abraham, ils voient Lazare, ils communiquent encore, même s'ils peuvent plus changer de bord, mais ils peuvent se voir. Dans la GM, dans la seconde mort, ils verront plus la vie. C'est fini, c'est les ténèbres du dehors que Jésus-Christ a parlé, puis où ce que des pleurs, des grincements de dents, jour et nuit au siècle des siècles, où ce que le feu ne s'éteint point, et où ce que les vers ne meurent point. C'est un tourment éternel pour ceux qui sont morts dans leur péché. Puis là, il nous propose le Saint-Esprit. Il dit, celui que des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort. Fait que déjà, sur la terre, tu peux être victorieux. Puis marcher dans la victoire, puis marcher d'une façon à dire, je suis sûr que je m'en vais pas dans la seconde mort. Êtes-vous de ceux qui ont cette foi? Vous allez comprendre à la fin comment est-ce qu'on obtient cette victoire-là. Troisième promesse que Dieu nous a donnée. Celle-là est un peu plus dure à expliquer parce qu'il y a plusieurs sens. Les théologiens, là, ils expriment ça en plusieurs sens, mais c'est quand même intéressant de pouvoir méditer ça. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, puis je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Là, l'Esprit Saint nous dit que celui qui va vaincre va avoir de la manne cachée, puis Dieu va lui donner un caillou blanc écrit avec un nom nouveau dessus. Y a-t-il quelqu'un qui essaie de se lancer pour dire qu'est-ce que ça pourra être la manne cachée?
Ben, c'est clair, c'est une nourriture, mais...
Une nourriture?
Oui.
Puis pourquoi qu'on va dire que c'est une nourriture?
C'est comme
à cause de la parole de Dieu.
À cause de
l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament. L'endroit où ce qu'on a vu de la manne, ça n'a existé que 40 ans sur cette terre. Ça a commencé à un moment fixe, puis ça a fini 40 ans plus tard fixe. Ça rend, aussitôt que le peuple juif est sorti d'Égypte, puis qu'on a été dans le désert, parce qu'ils venaient de sortir d'être esclaves de l'Égypte, sous la main de Moïse, qui les a sortis de là, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Quand ils ont rentré dans le désert, la manne a commencé à tomber. C'était la nourriture qui venait du ciel.
Moi, la relation que je vois, c'est que sur terre, c'était physique. Mais de l'autre côté, c'est spirituel. Tant que tu parles de manne cachée, c'est une manne spirituelle.
Ben oui, la selle qui vient de Dieu. C'est une nourriture qui vient de Dieu.
Ah, Daniel, elle veut savoir c'est quoi? C'est comme un pain, comme un style de pain?
Non, ça n'a pas tombé comme un pain. Ça tombait comme une rosée le matin. Ouais. Ça faisait comme des petits grains. Après, puis là, il ramassait ces petits grains-là. Il les écrasait, ça faisait de la poudre. Il faisait une galette avec ça, il faisait des galettes, puis il se faisait comme du pain, un pain sans levain, comme un tortillas, mettons, puis ça goûtait le miel. Fait que c'était la nourriture, il se ramassait une fois par jour le matin, il allait chercher la nourriture pour leur journée, il en gardait pas pour le lendemain parce qu'elle pourrissait. Elle durait juste une journée. Puis il y a juste le vendredi, il fallait qu'il ramasse pour 2 journées parce que le samedi, il n'a pas le droit d'en ramasser. Puis la nourriture qu'il ramassait le vendredi, elle durait 2 jours. Oui. C'était miraculeux. Oui. S'il en ramassait plus dans la semaine, le lendemain, c'était pourri. Puis le vendredi, ils pouvaient en ramasser pour deux journées, puis ça se conservait. Dieu lui montra que cette nourriture venait du ciel, que c'était une manne, une nourriture pour le peuple juif dans le désert, puis qu'ils ont été nourris pendant 40 ans à manger de la manne. Ça, aussitôt qu'ils ont mis le pied dans le désert, ça a commencé à tomber, puis aussitôt que le dernier pied est sorti du désert, quand ils ont rentré dans la terre promise, ça a arrêté de tomber.
Oui, mais il y avait-tu rien que ça dans le temps pour manger?
Non. À un moment donné, ils se sont plaints, puis ils ont demandé de la viande. Mais en se plaignant, il n'aurait pas dû se plaindre, il aurait dû en demander sans se plaindre. Dieu leur a envoyé des cailles pour se nourrir. Quoi? Des cailles. Ben non, il y a eu d'autres moments qui ont eu de la viande, mais...
Ben, j'ai juste un petit commentaire à faire. À un moment donné, ils ont pris des pots, puis ils ont mis la manne dans les pots pour les préserver, pour
ouais.
nourrir à futures des... générations.
Oui, puis ils ont mis ça où?
Puis là, je me demande si...
Ils ont mis ça dans l'Arche de l'Alliance.
Ben, je me demande si ça existe encore, ces pots-là.
Non. Il y a l'Arche de l'Alliance. L'Arche qu'il y avait là, dans ce temps-là, était sous la tente, parce que la tente, elle a servi dans le désert. Fait qu'il en gardait pendant le désert, puis il gardait aussi la verge d'Aaron, son grand bâton. Puis il y avait un autre, il y avait les tables de la loi, qui étaient les deux tables que Dieu a écrites de son propre doigt, gravées sur une table de pierre. Puis c'est un backup parce que le premier set a été détruit. Puis Dieu il a ordonné une deuxième copie. Ça a duré. C'était dans l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'était comme une boîte. Puis tout était à l'intérieur. Puis il y avait un couvert là-dessus. Puis il y avait deux anges en forme de chérubin qui étaient par-dessus. Mais ça, c'était dans le temps de la tente. Après ça, Salomon... Après ça, ils ont fait un bâtiment.
Ça a été dans la tente de Salomon.
Ouais. Puis après ça, ça a été attaqué. Après ça, le peuple juif se sont fait voler le stock. Et à un moment donné, l'arche s'est retrouvée ailleurs. Puis ils ont transporté l'arche. Il y a eu toute une histoire. Je donnerai de la manne cachée. Fait que là, la manne, on voit que c'est la nourriture. Si on écoute, puis on est dans la victoire en Jésus-Christ. Si on est dans la victoire, puis on persévère jusqu'à la fin. Puis il va nous donner la manne cachée. Qui est une manne spirituelle, qui est une, c'est symbolique à la nourriture, comme qu'on a vu, puis c'est caché, mais c'est quelque chose qui va être en nous lorsque nous serons l'autre bord. Parce qu'il faut obtenir la victoire pour obtenir cette manne cachée et obtenir aussi un caillou blanc. Que voudrait dire d'obtenir un caillou blanc? Il y a plusieurs hypothèses que les scientifiques chrétiens essayent de donner, mais une entre autres qui est très plausible, c'est que dans l'ancien temps, quand il donnait, il y avait deux cailloux, un blanc et un noir. Puis quand il y avait un jugement qui était donné, s'il donnait le caillou blanc, il était pardonné, il gagnait sa cause. Puis quand c'était le caillou noir, c'était parce qu'il était condamné. C'était la manière de donner sa réponse dans ce temps-là. Fait que le caillou blanc voudra représenter d'être justifié, d'être déclaré safe, non coupable, justifié, pardonné, purifié, que tu es à la bonne place, que tu as gagné ta cause, puis qu'à cause que c'est le caillou blanc, en plus que ce que Dieu nous promet d'avoir, on va avoir un nom nouveau. Peut-être qu'il va nous appeler fidèle, peut-être qu'il va nous appeler zélé, peut-être qu'il va... Tu sais, les noms, ils ont toujours un rapport avec notre comportement. Il peut nous appeler ami, il peut nous appeler frère, il peut nous appeler... mais il va avoir un nom spécifique pour chaque personne selon ce qu'il voudra nous donner.
Comme Jésus, il a appelé Simon
Cephas. Oui, qui signifie Pierre. Oui, mais ça, ces noms-là, on va les recevoir rendus l'autre bord. C'est un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça, c'est Dieu lui-même qui va le donner. Qui vous a donné votre nom à votre naissance? C'est vos parents. Qui va vous donner un autre nom rendu l'autre bord? C'est Dieu lui-même. Puis il va nous donner le nom qui est exactement parfait pour ce qu'on est. On va être content même d'avoir reçu notre nom. Il y en a d'autres qui sont déjà donnés par Jésus. Il y a bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Puis il y en a d'autres qui ont reçu méchants serviteurs paresseux.
Oh.
Wow. Oh, okay. Là, c'est grave.
Ben,
Puis là, il s'est fait jeter dehors. Dans les ténèbres du dehors, ça dit dans ce verset-là, c'est celui qui avait reçu mais il l'avait enterré.
Prouve une chose, c'est que même si tu as juste un don, priez le Seigneur qu'il multiplie ce don-là.
Oui.
Seigneur, même si tu m'as donné qu'un don, fais que je puisse t'en amener un de plus au moins. Sinon, deux de plus, selon ta bonne volonté.
Peut-être 10.
Mais il faut qu'on s'aide de nos dons.
C'est ça.
Parce que même, on peut avoir juste un don, puis on peut faire plein de choses avec.
Ah
oui.
On peut avoir un don, puis rien faire avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec deux puis trois dons? Même juste un, là, c'est en masse.
Probablement que ce serviteur-là doit être paresseux, puis l'autre aussi un peu, parce qu'on voit qu'il était comme incrédule.
Oui, mais il y en a qui pensent qu'il y en a un qu'un, mais il y en a trouvé trois ou quatre. Ça n'a pas de
choix. Il prenait, quand il parle des mines, il prenait sa mine, puis il donnait les à celui qui en a 10.
Oui. Mais ils n'avaient toutes reçu une dans celle-là, dans cette parabole-là. Puis dans un autre passage de Paul, il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Fait qu'on a tous au moins un.
Au moins.
Puis dans l'autre parabole, ça dit que l'un n'avait cinq, l'autre n'avait deux, l'autre n'avait un. Mais on a tous au moins un. On est tous importants aux yeux de Dieu que ce don-là soit mis au service de Dieu. Mais c'est en cherchant avec Dieu, il va te le montrer. Faites-en pas. Là, on va regarder une dernière promesse pour ce soir. Les autres, on les verra la semaine prochaine. Apocalypse 2, 26, ça nous dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il y a toujours des conditions des promesses de Dieu. Je donnerai autorité sur les nations. Il les peintra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Fait que celui qui va vaincre puis qui va garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, ça, cette petite parenthèse-là est importante. Parce que Dieu nous appelle à persévérer jusqu'à la fin. Tu peux pas être un vainqueur si tu persévères pas jusqu'à la fin. Si tu lâches en cours de route, puis tu dis, moi, j'ai plus le temps de m'occuper du Seigneur, puis le Seigneur, bon, de ça, ça compte même pas pour ma vie, puis il commence à rejeter ça, puis à tosser ça, puis mettre ça en dernier dans sa vie, bien, de valeur, il vient de tomber comme qu'il était avant. Il est retourné à son ancienne vie. Puis là, il commence à vivre comme qu'il vivait, d'une manière humaine, dans le péché, puis tout. Tu renies le Seigneur, tu perds toutes ses promesses. Dieu veut pas qu'on le renie. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Peu importe qui ce qu'on est, il faut rester fidèle.
Puis,
ben là, je vais le chercher tantôt, je vais finir mon bout, parce que je m'en rappelle plus par cœur de la référence, mais je vais le sortir tantôt. Le point est, si on persévère et qu'on garde ses œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations.
Même si on est persécuté.
Oui, ben c'est ça, faut persévérer dans la foi, peu importe ce qui arrive.
Parce qu'avec les mauvais temps qui s'en viennent, là, il faut qu'on tienne notre bout.
Oui.
Là, c'est ça, dans les persécutions qui s'en viennent, on va avoir un choix à faire.
Celui qui me reniera devant les hommes sera de renier devant les anges.
Le point est comme victoire. Je donnerai autorité sur les nations. Quand est-ce qu'on va avoir autorité sur les nations?
Mais qu'on soit avec
dans le règne de mille ans.
Dans le règne de mille ans.
Ouais.
C'est sur cette terre. Mais nous n'avons pas encore autorité sur les nations. La Bible a dit qu'on a autorité sur les esprits, mais pas sur le monde. Le royaume de Dieu n'est pas rentré en puissance encore. Mais il y a un jour où Jésus-Christ reviendra. Puis là, il va prendre le contrôle de la planète. Le temps des nations va être achevé. Puis là, ça va être le temps du règne de Christ sur la terre. La gloire de l'Éternel va remplir la terre. Tous les saints qui sont avec le Christ vont descendre sur cette terre. Puis on va vivre une histoire de... Ça dit 1000 ans dans l'Apocalypse, mais le mot 1000 n'existe pas dans le texte. C'était traduit par 1000, mais c'est un sens inconnu. Ça peut être plus que ça, le sens du mot. Fait que faut s'attendre que ça va être une longue période où ce qu'on va vivre avec le Christ à régner sur les nations. Que les nations qui vont leur être permis de rester pendant 1000 ans. Puis le système de la vie va changer dans ce temps-là. La Bible parle que...
Il n'y aura pas de péché, il n'y aura plus rien.
Ben, il peut en avoir...
Il n'y aura pas de tentation.
C'est que le diable ne sera pas là pour tenter le monde. Il va être enfermé pendant cette période-là. Ouais. Puis les nations vont être encore dans leur corps charnel, mais ils ne seront plus tentés par le diable. Puis ça dit que dans le temps de la vie va augmenter. Ça dit que le pécheur âgé de 100 ans mourra jeune, tandis que là, en voulant dire que le temps de la longévité va recommencer pour assez tirer, pour que les gens vivent encore plus que 100 ans. Ils vont être considérés jeunes s'ils meurent à 100 ans, le pécheur. Fait que les pécheurs, en parlant de ceux qui sont pas des sauvés, c'est ceux qui sont de ceux qui ont été permis de vivre pendant ce temps-là, pendant le règne de 1000 ans. Ça parle aussi que vu que l'Esprit de Dieu va être sur la terre, que la gloire de Dieu va être sur la terre, à ce niveau-là, ils vont un changement au niveau des animaux. Il dit un serpent venimeux ne fera même plus de mal à un bébé, puis un lion et un mouton vont manger de l'herbe ensemble. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la nouvelle état qui va se produire pendant le règne de Milan.
Ça, c'est avant Jérusalem descend?
Oui. C'est sur cette terre ici que Christ va régner sur cette terre. Puis c'est un règne qui ne passera point.
Ça, c'est après l'Armageddon, c'est ça?
Oui.
Puis l'Armageddon va durer combien de temps?
Je ne sais pas. Je sais juste qu'il va en avoir une guerre effroyable, mais toutes les nations vont s'assembler pour faire la guerre aux Juifs. Puis,
ils vont aux Juifs à Dieu, ils combattent contre Dieu.
Oui, ils résistent à Dieu, mais c'est quand même un combat contre Dieu. Mais Jérusalem investi par les armées.
Quand est-ce qu'on va monter au ciel avec Jésus?
À l'enlèvement.
Ça, c'est après le millénaire?
Non, avant.
Avant
c'est le commencement du millénaire, ça.
On va monter au ciel, puis on va redescendre?
Oui, parce que on monte sur un nuage à la rencontre. Le Seigneur est déjà descendu.
Okay.
Seigneur descend, puis il revient avec ses saints. Toutes les morts en Christ vont ressusciter premièrement, puis nous, les vivants, on va aller les rejoindre sur une nuée, sur un nuage. Puis on va être à la vue de tous les hommes, puis là, les derniers jugements vont s'abattre sur le trône de la bête, puis là, c'est là que le Christ va prendre le contrôle. Parce que lorsqu'il apparaît...
On va descendre avec Jésus à terre?
Oui.
Ah, OK.
Là, je vais finir ce verset-là. Il va nous donner l'autorité, on va paître avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, puis je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
L'étoile du matin, elle signifie quoi?
Mais c'est l'astre qui éclaire, mais ça donne pas la définition comme telle dans la Bible, faut que tu y ailles avec l'inspiration pour te donner un sens, c'est comme la manne cachée ou le caillou blanc, faut y aller avec des comparatifs. Mais dans la Bible, l'astre, l'étoile du matin qui est l'astre de l'aurore, il y a pas rien qui nous dit ça, sauf qu'on pourrait s'imaginer que c'est la présence du Christ puis la grandeur de sa lumière, parce que le Christ, il est comme un soleil, il est comme son visage est rayonnant comme le soleil dans sa force, ok. Ce qu'on va obtenir, c'est la pleine bénédiction d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. C'est des manières de le définir. Ouais. Mais il n'y a pas réellement de sens décrit, mais qu'on soit là, on va catcher tout de suite ce que ça veut dire. Là, on voit juste les promesses que l'Esprit dit aux églises qu'il faut vaincre, puis il va nous donner ça. La semaine prochaine, on regardera les autres. On va prier. Seigneur, je te remercie pour le temps de partage qu'on a eu ce soir, les belles promesses que le Saint-Esprit veut nous faire à celui qui va vaincre, à celui qui va garder tes œuvres jusqu'à la fin. Seigneur, donne-nous de persévérer jusqu'à la fin. On veut rester debout. Tu nous demandes de veiller et prier afin d'avoir la force de tout surmonter et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donne-nous cette force, Seigneur, pour qu'on persévère, qu'on aille de l'avant, qu'on se laisse pas ébranler, puis que ton Saint-Esprit nous garde, nous fortifie, nous équipe et nous rende inébranlables. Nous remettons nos ventres à tes mains, Seigneur. Donne ta bénédiction à chacun dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.